Eh bien donc, bonjour aux auditeurs de l'Institut des Libertés. Donc aujourd'hui, je reçois donc, pour la deuxième fois, j'ai déjà reçu M. Gilles-William Golnadel, où on avait beaucoup parlé de son expérience de la justice, c'était à peu près un an et demi, et il n'était pas très heureux de la justice française à l'époque, ça ne s'est pas amélioré, je ne pense pas.
Je suis encore plus malheureux...
Que vous ne l'étiez à l'époque.
Voilà, et je considère que nous vivons dans une plus grande... insécurité juridique encore en France.
En France, oui, je suis là-dessus, je reste d'accord, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va vous interviewer. Là, j'ai l'intention de vous faire parler de votre manuel de la résistance au fascisme d'extrême-gauche. Donc, c'est un petit livre qui est extrêmement intéressant, d'abord parce qu'il est court, donc il sera rapidement lu,
oui.
Donc c'est quelque chose que vous pouvez lire rapidement, mais je tiens à dire que c'est écrit petit quand même, donc... C'est...
Ne commencez pas à décourager le client, s'il vous plaît.
Donc, il n'y a pas beaucoup de pages, mais il va falloir se défoncer. Mais ça a l'air très intéressant. Et je vais commencer par lui faire une remarque presque philosophique. Manuel de résistance, vous dites « les fachos ont changé de côté ». Vous voyez, c'est marqué ici. Mais le fascisme a toujours été à gauche. Nazisme, ça voulait dire national-socialiste. Fascisme, Mussolini était un des dirigeants du Parti Socialiste de l'époque. Donc, en quoi la gauche a-t-elle changé de côté? Elle a toujours été fasciste.
Alors, écoutez, je vais vous faire une double confession.
Allez-y.
Qui me coûte un peu. Il s'agit, comme vous avez bien voulu le rappeler, d'un manuel de résistance. Quand vous faites de la résistance, vous recherchez avant tout l'efficacité.
Et les alliés, parce qu'il y en a beaucoup.
Peut-être, mais au nom, en tous les cas, de cette efficacité, il m'a fallu consentir à deux concessions. La première, c'est d'utiliser le mot fascisme. Moi qui me suis toujours révolté contre le dévoiement de l'histoire, je n'aime pas beaucoup utiliser le mot fasciste, puisque l'extrême-gauche... mais avec beaucoup d'efficacité, l'a fait dès le lendemain de la guerre en traitant tous ses adversaires démocratiques, de fascistes ou de fachos, pour employer une expression qui passe mieux. Donc, vous voudrez bien entendre, c'est ma première concession, mais quand même, vous voudrez bien entendre le mot fasciste ou facho, non pas dans son acception historique, mais dans sa conception dévoyé, largement galvaudé par l'extrême gauche et la gauche avec succès.
Le fascisme, pour vous, c'est quelqu'un qui vous tape dessus pour vous convaincre de la solidité de ses convictions.
Alors, laissez-moi... Oui, alors, oui, d'une certaine manière. Mais laissez-moi vous dire ma deuxième concession. Oui. C'est que lorsque je dis, comme vous l'avez finement remarqué, que les fachos ont changé de côté, donc ils sont passés à l'extrême-gauche, ça sous-entendrait que les fachos venaient de l'extrême-droite ou de la droite. Or, c'est parfaitement contestable, mais c'est parfaitement contestable.
Ça l'a été d'ailleurs.
Et je le conteste, puisque c'est vrai historiquement. Alors là, on revient dans l'histoire, non pas dans le vocabulaire révulsif que j'utilise pour le mot facho-fasciste. Mussolini... était un authentique socialiste. Il écrivait dans Avanti, le journal du Parti Socialiste. Il était, même tout au long de l'exercice de son pouvoir, il était un authentique socialiste avec, évidemment, des mesures socialistes. Quant au national-socialisme hitlérien, comme vous l'avez remarqué, dans national-socialiste, il y a socialiste, mais à bon escient, puisque nombre des compagnons de route d'Adolf Hitler étaient d'extrême-gauche, à commencer par Röhm.
Oui.
Röhm était un authentique...
Il a été liquidé assez vite. Hein.
Il était liquidé assez vite, mais d'autres compagnons de route étaient d'extrême-gauche.
Alors,
il détestait le capitalisme.
Oui, je tiens, ça c'est toujours la même chose. En général, les fascistes, les national-socialistes, etc., détestent le capitalisme et détestent la liberté. C'est leurs deux caractéristiques. Mais il faut savoir que la définition du fascisme qui a été donnée par Mussolini, c'était quand même tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État.
Bien sûr.
Donc, quelque part, il faut savoir que, par exemple, le programme commun de la gauche était profondément fasciste. c'était un programme qui était de début à la fin fasciste, puisque tout passait par l'État, tout est fait par l'État, etc. Donc, encore une fois, ça remonte. On en voit les effets pervers aujourd'hui, 40 ans après. Mais cette espèce de prise de contrôle de la gauche fasciste, c'est pas nouveau.
Non, mais y compris, encore une fois, la falsification de l'histoire.
Oui, mais ça va de pair.
La falsification des mots, et d'une certaine manière, dans mon livre résistentiel, j'aurais pu très bien utiliser, si j'ose dire, l'épouvantail communiste, qui est alors lui, d'extrême gauche. Sauf que, grâce au pouvoir médiatique et politique de la gauche et de l'extrême gauche, il n'y a pas eu de, comme dans d'autres pays européens, dont l'Italie d'ailleurs, il n'y a pas eu de procès véritable. Il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Et raison pourquoi, le mot communiste n'est pas un mot repoussoir. Vous avez un parti communiste qui est avec un journal L'Humanité qui continue d'arborer fièrement la faucille et le marteau qui devraient être pourtant des objets tout aussi repoussants que la svastika. Monsieur Roussel, on le trouve sympathique. Il n'y a pas en France un anticommunisme aussi militant que ne l'est l'antifascisme dont tous les gens se prévalent. Si
et ce qui est intéressant, c'est que bon, les fascistes et les communistes, ils ont tué beaucoup de gens jusqu'en 1945. Les communistes, ils ont continué à tuer des gens après 1945 et par tombereau.
Ils continuent.
Et ce qui est curieux, c'est que personne ne... On continue à condamner ceux d'avant 1945, et si, de temps en temps, on se dit, dans le fond, la grande erreur des gars d'avant 1945, c'est d'avoir perdu la guerre.
Ben oui. Mais oui, bien
parce
sûr.
Que c'est, mais... Parce que je crois que les gens ont peur de dire du mal du communisme, parce que regardez ce qui est arrivé, le livre noir du communisme il y a quelques années.
Oui, mais Gérard Courtois, qui est un ami,
la carrière de tous les gars qui ont écrit dans
bien
ce
Bien sûr,
bouquin,
ils ont été poursuivis d'une
une haine tenace.
Une haine tenace. Mais, non, mais il faut comprendre, si vous voulez, que, et vous avez raison, non seulement il n'y a pas de procès, il y a encore aujourd'hui, je vais vous donner deux exemples, il y a encore aujourd'hui une impunité morale totale de l'extrême gauche. On fait la chasse aux prêtres pédophiles. Mais par un hasard cosmique, le plus grand allié des pédophiles, Monseigneur Gaillot, qui a fait rentrer spécialement du Canada, en pleine connaissance de cause, un prêtre pédophile condamné au Canada pour avoir violé des petits garçons, il a fait rentrer en pleine connaissance de cause ce type-là en France. Il l'a installé dans sa paroisse. Le type a continué à violer des petits enfants dans sa paroisse. Monseigneur Gaillot a été mentir devant le tribunal en disant, contre l'évidence, et qu'il ignorait le passé du type. Est-ce que vous avez, alors qu'on se déchaîne contre le pauvre barbarin, qui n'a strictement rien fait, est-ce que vous entendez parler de quoi que ce soit avec Monseigneur Gaillot ? Les terroristes italiens, les terroristes d'extrême-gauche italiens...
Dans les années de plomb, là-bas.
Voilà trois tribunes qui ont été publiées par le journal Le Monde, qui ne les appelle pas terroristes, qui les appelle militants, et qui expliquent que le temps ayant passé, ces gens-là maintenant ayant une vie, il ne faut pas les extrader vers ce pays horrible, avec une justice horrible, qu'est l'Italie. Même la gauche italienne ne comprend pas l'attitude de la gauche française, en ce compris le journal Le Monde, qui nous expliquait que Cesare Battisti était innocent. Il a fallu que Battisti lui-même reconnaisse après son arrestation qu'il s'est bien moqué de ses amis de gauche et d'ailleurs qu'il n'avait pas beaucoup à se forcer pour être cru et reconnaître sa culpabilité pour qu'on reconnaisse la culpabilité. Donc ce que je veux dire par là, au-delà de ces exemples que je vous donne, il y a, pour répondre à votre question, une impunité invraisemblable de l'extrême gauche qui continue, puisque Maduro continue à sévir sans qu'on dise mais au Venezuela. Le communisme chinois n'est pas spécialement critiqué.
J'ai été à Cuba il y a deux ou trois ans. Rien ne marche. C'est un pays qui est d'une pauvreté incroyable. Là, le niveau de vie le plus bas de toutes les Antilles. Et on continue encore à m'expliquer que Cuba, c'est un bon système de santé ou j'en sais rien. Donc, mais alors, c'est une question très intéressante. Pourquoi ces gens-là ne regardent-ils pas la vérité en face? À quel moment faut-il accepter qu'on s'est trompé? Est-ce qu'ils sont incapables de reconnaître qu'ils se sont trompés? Est-ce que pour eux c'est une espèce de foi religieuse?
Oui, alors il y a... Alors,
D'où ça vient cette espèce d'impunité?
Alors, vous savez... Non, ça vient... Alors, c'est aussi une part de bon. Ça vient... J'en veux beaucoup plus à la passivité de la droite intellectuelle, médiatique et politique française qui n'exerce pas son travail critique nécessaire contre l'extrême gauche que contre cette extrême gauche qui, d'une certaine manière, pourquoi voulez-vous qu'ils soient, si j'ose dire, plus royalistes que le roi? Ils se sont enfermés par une manière d'esthétisme. Vous savez, la phrase la plus épouvantable que je connaisse, c'est ces types qui ont dit « Je préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ». Vous vous rendez compte ce que ça veut dire en creux? C'est d'une ignominie totale. Ça veut dire que par esthétisme, je préfère m'être trompé sur la Russie des goulags, sur les morts des Khmers rouges, sur tous les crimes du communisme et de l'extrême gauche, parce que finalement, c'était beau, les idées étaient belles, on était beaux nous-mêmes, plutôt que d'avoir raison de manière un peu ingrate. Donc, à partir de là, si vous voulez, vous voyez bien que entre cet esthétisme très narcissique et vous l'avez pointé, ce caractère un peu religieux des choses, quand vous êtes dans la religion, vous n'essayez pas de coller à l'ingrate réalité. Vous êtes porté par la foi. Donc, et personne ne s'est chargé, justement, de critiquer leur esthétisme, je pense notamment à ces nombreux artistes qui restent toujours à gauche, ni même critiquer encore une fois leur foi avec des arguments percutants. Donc d'une certaine manière, et c'est aussi l'une des raisons de mon livre de résistance, j'en veux beaucoup à la passivité de la droite qui sans doute, j'essaye de plaider l'avocat qui vous parle, plaidera les circonstances atténuantes. Il fut un temps, il n'y a plus cette excuse-là, mais il fut un temps qu'il suffisait d'être extrêmement contre la gauche pour être catalogué d'extrême droite. Oui, ça suffisait.
Oui, maintenant on est d'extrême droite, quoi qu'on dise, donc tout va bien.
Oui, voilà. Oui, sauf que maintenant ça fait plus mal.
Ça fait plus mal. Je vous assure. On n'est pas exclu.
Oh, on n'est pas exclu. Alors là, vraiment, ça ne fait plus mal. Mais à l'époque,
c'était
reconnaissons-le, il fallait être assez courageux ou pouvoir se permettre d'être mis dans un ghetto.
Et bien des carrières ont été détruites.
Donc, pour le passé, circonstances atténuantes.
Donc, il y avait une certaine excuse de la lâcheté de la droite. Ouais, c'était... Et puis
elle-même, lâcheté. Et elle-même a été, la droite a été complètement lobotomisée. Les gens de droite ne vivent pas dans un espace clos. Je vous le disais en aparté, mais c'est un exemple que je vous ai pris. Actuellement, pour parler à nos amis des exemples concrets, actuellement, bon, on peut railler la faiblesse de la gauche, on peut radier leur ridicule avec leur primaire populaire qui n'est ni primaire ni populaire, quoi. Bon, on peut se moquer. Mais malgré tout, sur un élément fondamental, personne ne daube, sur la possibilité, et d'ailleurs la presse elle-même regrette que ça ne se fasse pas, d'une union de la gauche totale. Autrement dit, pas de problème moraux à ce que la gauche démocratique s'allie avec l'extrême gauche. Et même la droite, Même la droite ne le fait pas remarquer. La droite qui est sommée...
Il y a toute une partie de la droite qui serait enchantée de s'allier avec cette gauche.
Mais bien entendu.
Ils demandent que ça.
Donc mais bien sûr, mais cette droite sommée de ne pas s'allier avec son extrême, même pas sommée, suspectée. Il suffit, je me permets de vous rappeler, que certains aient déjeuné avec Marion Maréchal pour que il soit de décret du président du Sénat, le grand Gérard Larcher, pour qu'il soit exclu à l'époque, je crois que c'était encore l'UMP, d'avoir déjeuné avec Marion Maréchal. Mais à gauche,
pourtant, c'est une très
jolie femme.
Pourtant, c'est une très jolie femme.
Mais c'est une femme non seulement jolie, voilà. Mais elle est intelligente et spirituelle.
On puisse condamner un gars parce qu'il a déjeuné avec une jolie femme. Faut pas rigoler
quand
même.
Vous ne le répéterez à personne. Pour le plaisir de la table et de la discussion, je préfère déjeuner, c'est très subjectif comme jugement, je préfère déjeuner avec Marion Maréchal qu'avec Madame Hidalgo.
Ben, ça me paraît rien. Tout à fait évident, ça.
Bah, écoutez, voilà.
Voilà, et pourtant, si vous déjeunez avec Madame Hidalgo, personne ne vous en voudrait.
Ah, au contraire.
Seriez très très bien considéré.
Bien entendu.
Vous avez vu cette histoire qui est arrivée à ce pauvre gars qui s'appelait Panafieux, je crois, qui a été... Vous savez, de la famille Panafieux.
Oui, mais j'aime bien.
Ben, il avait organisé un dîner chez lui chez Zemmour.
Oui.
Pour Zemmour, chez lui.
D'accord.
Et puis, il était le patron d'une grande affaire de consultant d'origine allemande. Et ben, il a été viré du jour au lendemain parce qu'il avait organisé un dîner chez lui, privé, avec Éric Zemmour.
C'est terrible. Mais vous voyez...
Mais c'est extraordinaire.
C'est l'un... des caractéristiques que j'attribue dans mon livre au fascisme dans
Absolument.
Son caractère dévoyé, alors que je vous assure...
C'était l'excommunication dans l'Église catholique qu'on faisait au XIIe ou XIIIe siècle, c'est-à-dire que ben, vous étiez mort, c'est-à-dire que vous étiez mort civilement, vous étiez mort socialement, vous étiez... une fois que vous étiez excommunié, vous étiez foutu, quoi. Et ben c'est impossible.
C'est pareil, oui, mais sauf que là, je peux vous dire que M. Panafieux aurait invité à sa table M. Mélenchon, voire même M. Poutou, qu'il n'aurait eu aucun problème de quoi que ce soit.
Alors, ce qui m'amène à vous poser une question, ils ont réussi donc à faire l'adéquation entre la droite tranquille, mettons, moi j'ai vécu 35 ans en Grande-Bretagne, et la chance de la Grande-Bretagne, c'est qu'elle ne s'est pas fait battre par les Allemands, donc la droite anglaise, n'a pas été déshonoré après la guerre, si
bien sûr.
Donc, bon, moi, intellectuellement, je serais plutôt un conservateur britannique, si vous voulez. On change que ce qui a besoin d'être changé, le reste, on le laisse bien tranquille. Quoi, vous voyez, bien. Mais les gens qui représentent cette espèce de philosophie en France, il n'y en a pas des masses, mais il y en a, on les assimile immédiatement, vous savez, au ventre de la bête immonde, etc. Mais c'est quand même extraordinaire, parce qu'ils en sont aussi loin qu'il est possible. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont résisté pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui se sont battus, c'est les Anglais, c'est les familles convenables en France. Je veux dire, la gauche française, ça n'a pas couvert de gloire pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, mais ça fait partie...
Donc c'est un mensonge.
Oui, ça fait partie des grands mensonges qui sont devenus une sorte de réalité incontestable contre la réalité des choses. Puisque les premiers résistants, et comme Étienne Dorf par exemple, étaient même très à droite.
Ben, c'était les croix de feu, beaucoup d'entre eux.
Le colonel Larocque, qui a été diabolisé avec les croix de feu, il est mort même en déportation, tellement il résistait. Et on a travesti la réalité, on a oublié un peu vite comment les socialistes avaient accordé les pleins pouvoirs à Pétain. Bon, vous savez, on a idéalisé un président de la République qui a porté la Francisque et qui a rangé son coup à Bousquet, qui est le principal organisateur des rafles de juifs. Donc, je veux dire, ça va loin, et on a même complètement apporté un blanc-seing au parti des fusillés, le parti communiste français, nonobstant le pacte germano-soviétique qu'il a approuvé des deux mains, et la publication dans les premiers jours de l'occupation de l'humanité avec l'autorisation demandée à la commandanture, où on souhaitait la bienvenue aux troupes d'occupation au nom de la fraternisation entre Allemands et Français, et on accablait les Juifs Blum et Mock. Donc, c'est-à-dire à partir de, du fait qu'on a complètement travesti la réalité historique, on a bâti une légende où la droite française conservatrice devenait non seulement réactionnaire, mais raciste. Donc, c'est sur cette base-là, moi, que je montre, me bats.
Mais vous avez raison. Et donc, ça vous amène à parler de quelque chose qui me laisse absolument pantois. Parce que moi, j'essaie d'analyser la réalité dans ce qu'elle a de difficile. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis quelques années, je me rends compte qu'il y a des faits de droite et des faits de gauche. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, il y avait les faits, et puis à partir des faits, on essayait de bâtir une compréhension de la réalité, et puis à partir de là, on essayait de trouver une façon d'agir, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, je me retrouve dans un monde où si j'évoque certains faits, je suis discrédité, je n'ai plus voix au chapitre. Donc, donc ce que vous dites, c'est que dans le fond, il y a toute une série de faits qui n'en sont pas, mais qui empêchent les gens de s'exprimer, parce que dès qu'ils les expriment, on dit vous n'avez pas le droit de dire ça, donc vous êtes un salaud.
Alors,
ces faits de gauche et ces faits de droite, qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, je montre dans mon livre, parce qu'il faut comprendre que les attributs du fascisme, dans son acception encore une fois galvaudée, c'est la violence dans la rue, la censure, l'intolérance, le racisme et la mainmise au moins sur les services publics, sur le service public de l'information. Et je montre que dans ce cadre-là, il y a effectivement, on a fait main basse sur la réalité. Et je montre que la gauche qui est encore en majesté, largement en majesté médiatique et totalement en matière d'audiovisuel de service public, ce que j'appelle moi l'audiovisuel de service public, je montre qu'il y a, heureusement il y a les réseaux sociaux qui malgré tout arrivent un tout petit peu à effacer cela. Les réseaux, vous savez la fameuse fachosphère,
oui.
Ce que j'appelle moi la fachosphère. Très curieusement, ils créent des mots, hein. Ils créent la fachosphère, mais il n'y a pas de bobosphère, il n'y a pas de bolchosphère, il n'y a pas d'islamosphère. Il n'y a qu'une seule sphère critiquable.
Très bien.
Vous comprenez rien déjà. Songez déjà à la manipulation des mots. Quand on parle dans les médias, et notamment dans les médias de service public, lorsqu'on parle de Zemmour, c'est le polémiste d'extrême droite. Marine Le Pen, c'est la candidate d'extrême droite. Mais je vous mets au défi, cher Charles Gave, je vous mets au défi de voir affubler au hasard M. Mélenchon de l'épithète d'extrême gauche. Au pire du pire, on va dire la gauche radicale, mais ça c'est très méchant. On va dire la gauche de la gauche. Et le plus souvent, on dit la gauche. C'est-à-dire que au niveau de la manipulation des mots, on extrémise que la droite et on euphémise la gauche. Premièrement, la manipulation des mots. Deuxième technique, l'occultation des faits qui dérangent et la focalisation sur les faits qui arrangent. Par exemple, je donne dans mon livre un exemple invraisemblable. Il y a eu, en mars de l'année dernière, à Boulder, dans le Colorado, un massacre. Il n'y avait pas eu un tel massacre depuis 2 années. Il n'y a qu'un seul problème. Les gens de tout âge qui ont été massacrés, ils sont blancs, ils sont tous blancs. Et leur massacreur est syrien, d'origine musulmane. Donc ça ne colle pas avec le schéma préétabli. Donc, on n'en a pas parlé, on n'en a pas du tout parlé, personne ne sait, sauf j'en ai parlé dans le Figaro, personne ne le sait en France. Par comparaison, vous remarquerez, vous comparez avec la focalisation planétaire de l'événement de Charlottesville, ou parce que une antiraciste blanche a été écrasée par un sudiste, on en a parlé pendant 6 jours d'affilée. Et je n'ose pas prendre l'exemple de George Floyd, qui a fait, dont les images ont fait 1000 fois le tour de la Terre. D'autre part, la focalisation sur la race, le racialisme, qui débouche sur un racisme. Je viens de prendre le dernier exemple dans mon dernier Figaro là, extraordinaire. Il n'y a pas une semaine, une jeune fille au visage angélique et blanc, Mademoiselle Kupfer, 21 ans, a été tuée par un Afro-Américain. Bien. Vous n'en entendrez évidemment pas parler en France, à part par celui qui vous parle. Bien. Mais, alors, on en a parlé parce que il s'agissait d'un criminel de haut vol.
C'est, au passé, déjà, au passé redoutable. Il était déjà 10 fois sans prison.
Il était en liberté. Il était en liberté. On en a parlé un peu à cause de ça. Mais, le Los Angeles Times s'est senti obligé de faire un article en disant « Pleurons la jeune Kupfer, mais n'oublions pas non plus la jeune fille noire, un tel dont personne ne sait par qui elle a été tuée. » Je veux dire par là que en dehors même de du système occultation-focalisation, aujourd'hui, lorsque une blanche est tuée par un noir, Dieu merci, il n'est pas question de regarder la couleur de la peau. Mais par contre, inversement, lorsqu'un noir est tué par un blanc, non seulement on insiste sur la couleur de la victime, non seulement on insiste sur la couleur du tueur, mais également on en tire presque immédiatement la conséquence qu'il s'agit d'un crime raciste. J'affirme que ce racialisme-là obsessionnel est un racisme préférentiel. Et je, un peu pour sourire, toujours dans le registre du racialisme, devenu fou, permettez-moi de vous faire remarquer que celui qui vous parle, qui est juif, qui n'en tire aucune honte ni vanité particulière, n'est pas racisé. Comment se fait-il que je ne sois pas racisé?
Pourtant, mais vous êtes blanc.
Mais vous me privez de tous mes effets. Pourtant, convenez, cher Charles, que sur le terrain de la concurrence victimaire, je peux difficilement être battu, puisque j'ai été toute ma vie battu. La Shoah, on n'est pas près de la... Dieu merci, on n'est pas près de l'égaler.
Non, vous avez toujours... Le peuple d'Israël a toujours été le bouc émissaire de Shoah.
Quand même. Et même maintenant, en France, en France actuelle, en matière de massacre, ça va pas mal non plus. Bien. Eh bien, malgré tout, je ne suis pas racisé, parce que je suis considéré comme blanc et même trop blanc. Et j'ai vu aujourd'hui, comme si elle voulait me donner raison, l'actrice afro-américaine Whoopi Goldberg était à la télévision il y a 2 ou 3 jours et elle a expliqué tranquillement, à certains qui ont été peut-être un peu étonnés, mais pas davantage, que la Shoah, c'était pas raciste. La Shoah, c'était pas raciste et pas une affaire de race, c'était une sorte de querelle de suprématie entre blancs. Voilà pourquoi, cher Charles, vous ne parlez pas à quelqu'un de racisé. Je suis content, hein, parce que j'ai vu que le président Biden, qui était porté au nu par toute la presse, et encore progressiste il y a quelque temps, maintenant, il a décidé, lui, de nommer, ça y est, c'est fait, il va nommer une femme noire comme futur juge à la Cour suprême. Non, je vois aucun inconvénient à ce que une femme noire, pour autant qu'elle soit compétente et intègre, arrive à la... Mais qu'elle soit, que ce soit une condition nécessaire et obligatoire sine qua non, nous sommes dans un racialisme préférentiel. Alors je vous dis franchement, je vous mets à l'aise tout de suite, je suis très content de ne pas être racisé et je vous demande de ne pas me nommer par préférence raciale président de la Cour de cassation.
Oui, non, ouais. Ce serait une bonne idée, ça. Ouais. Mais alors, essayons d'aller un tout petit peu plus loin sur ce que vous dites sur le racialisme, ouais. Le racisme, etc. Parce que ce qui s'est passé quand même dans les années 30 et avant aussi, c'est qu'on a décidé, que certaines personnes ont décidé que les juifs étaient mauvais dans leur essence. C'est-à-dire que le juif, Marx l'a dit en premier, enfin il y en a d'autres qui l'avaient dit avant lui, Proudhon, etc. Ouais. Ils ont tout, même Jaurès l'a dit aussi. Donc le juif est mauvais dans son essence. Bon. Et à partir du moment où quelqu'un est mauvais dans son essence, ça vaut autorisation de le liquider, puisqu'il est mauvais dans son essence. Le monde sera meilleur quand il ne sera plus là, quoi.
Oui, quand l'essentialisation conclut effectivement au caractère maléfique et néfaste d'un être,
on
peut être entraîné vers ce genre de conclusion un peu extrême.
Un peu extrême, très bien. Mais alors, bon, ça a été condamné par Nuremberg, ça a été condamné à juste titre, c'était une abomination. Mais aujourd'hui, on est en train de nous expliquer que le blanc est mauvais dans son essence.
Mais cher Charles.
Et quelle est la différence ?
Cher Charles.
Juridiquement, vous qui êtes.
Cher Charles, pourquoi croyez-vous que je me suis donné le mal de prendre ma plume pour commettre ce livre résistentiel contre l'extrême gauche ? C'est parce que dans les attributs du fascisme, dans
sa conception, il y a la vocation de liquider les autres.
Il y a le racisme, à savoir essentialiser l'autre. Et je prétends qu'il y a maintenant un racisme anti-blanc. Alors moi, je donne une explication. Hein. Quand j'ai écrit mes réflexions sur la question blanche, j'ai dit que ma réflexion, c'est contrairement à ce que pense par exemple mon ami Pascal Bruckner, je ne pense pas que ce soit la honte des prétendus méfaits du colonialisme. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que dans le creux de l'inconscient du blanc, il y a une sourde honte dans ce monde post-chrétien d'avoir, de partager en commun avec l'antéchrist moderne, assez bien joué, assez bien incarné par Adolf Hitler, la même couleur de peau. Et je pense qu'à partir de là, et ce que je décris comme un antinazisme devenu fou, il y a et le colonialisme a été revisité à la lumière blafarde justement de cet antinazisme devenu fou. Je pense qu'il y a cette honte indicible. Donc à partir de et évidemment qui a été condamné au non blanc qui évidemment n'en demandait pas tant. Et donc effectivement l'extrême gauche à tout le moins, se caractérise par un racisme anti-blanc, le privilège blanc, le racisme blanc, le fait même, mais vous savez que moi, il y a encore 10 ans, lorsque j'osais parler de racisme anti-blanc, mais je sentais mauvais. Les organisations antiracistes considéraient que non seulement le racisme anti-blanc n'existait pas, mais qu'il était en vérité l'apanage, pareil, de l'épouvantail extrême droite. On peut attaquer des petits blancs dans les banlieues, on peut les traiter de baptous, on peut massacrer des fermiers blancs en Afrique du Sud complètement impunément, on peut s'en prendre aux blancs et aux privilèges blancs comme si, parce que l'on est blanc, on est consubstantiellement raciste.
Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Il y en a d'autres aussi qu'on peut tuer comme ça impunément. C'est tous les chrétiens qui sont dans les anciens pays musulmans, etc., qui étaient là bien avant les autres, et qu'on tue. Mais c'est marrant parce qu'eux, ils ne sont pas blancs, ou pas vraiment, mais on a le droit de les tuer parce qu'ils sont chrétiens. Donc il semble bien que ce racisme anti-blanc s'étend de façon un peu rapide vers les chrétiens, parce que personne ne gueule jamais, on tue des dizaines de chrétiens par semaine dans tous les pays, et il ne se passe rien.
Alors, je vous corrigerai un peu.
Allez-y.
D'abord, on n'a pas attendu le racisme anti-blanc pour, dans les pays d'Orient,
tuer les chrétiens,
tuer les chrétiens, ou les mettre en esclavage. Les récits des Français du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle étaient emplis de cette peur de la razzia par les barbaresques des chrétiens. On a effacé le souvenir.
Ben, ici, j'ai reçu, il y a, à votre place, il y avait Batior.
Ben, bien sûr.
Et qui nous a expliqué ça aussi longuement.
Qui est une très bonne amie. On a effacé.
Alors pourquoi l'a-t-on effacé ?
Pardon, on a effacé. On a interdit. Je me permets de vous rappeler que dans la loi mémorielle de Madame Taubira, il n'est prévu que de sauvegarder sous peine d'amende la mémoire de l'esclavagisme, de la traite transatlantique, autrement dit de la traite par les Blancs des Noirs. Et on n'a pas le droit de parler de la traite arabo-islamique. Elle nous a expliqué pourquoi, Madame Taubira, dans l'Express, parce qu'il ne faut pas désespérer les jeunes musulmans des banlieues. On est dans un racisme avéré, avoué, revendiqué.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
On résiste, on se bat.
C'est le manuel de résistance. Voilà.
Hein. On se bat.
Et on se bat. La seule façon de se battre contre des idées, c'est par la parole.
Oui.
Et par l'action, et soi-même la refuser.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, parce que, si vous voulez, c'est tout à fait extraordinaire ce que vous dites, parce que, d'abord, c'est tout à fait réel ce qui se passe, on le voit. Mais alors, je vois aux États-Unis qu'aujourd'hui, la Cour suprême, ben, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, recevoir des implications pour interdire la sélection par la race pour les universités. C'est-à-dire quelque chose qui était passé il y a 40 ans, vous savez, les quotas.
Oui.
Ben, la Cour suprême est en train de dire, parce que dès que vous commencez les quotas, ben, vous racialisez les gens. Donc, vous avez ces quotas qui risquent de disparaître. Ça serait plutôt une bonne nouvelle, mais quel effet ça vous fait de penser
Moi, j'ai toujours considéré non seulement le système de quotas comme racialiste, donc raciste, entraînant un nivellement par le bas, et entraînant même des effets pernicieux racistes, puisque par exemple, les candidats asiatiques
sont exclus.
Qui brillent par leur travail.
Mmh.
C'est pas une explication essentialiste, c'est une explication sociale.
Ils bossent comme des fous.
Éducative, ils bossent comme des fous, parce que les parents les poussent à bosser comme des fous, et parce qu'aussi, on ne leur a pas forcé la tête, on ne leur a pas. C'est important. Farci la tête en leur disant « Vous êtes des pauvres victimes. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. » Mais vous savez, moi, j'en veux pas du tout aux gens à qui on dit ça. J'en veux à ceux qui le disent parce qu'il n'y a rien de plus facile dans la vie que de croire qu'on est une victime. C'est tellement agréable. C'est tellement confortable. C'est tellement l'excuse passe-partout. Donc, j'en veux pas du tout à ces gens qu'on a intoxiqués. Mais voilà. Absolument, le système des quotas, dans discrimination positive, il y a discrimination.
Qu'on le veuille ou non. Et alors, tout ça, depuis 40 ou 50 ans, parce que nos sociétés ont été transformées par des actes législatifs ou exécutifs, mais la justice a joué un rôle extraordinaire en allant toujours vers de plus en plus de, justement, reconnaissance de ces discriminations. Donc, comment il faut... On ne s'en sortira pas si la justice ne fait pas une espèce d'aggiornamento. Je vous amène sur la fin, sur votre histoire de justice.
Vous savez, j'ai critiqué le système médiatique. Je pourrais critiquer exactement pour les mêmes raisons, de la même manière, sociologique, historique, philosophique, le système judiciaire. D'ailleurs, vous savez, le juge, sociologiquement, il ressemble beaucoup au journaliste. C'est un type qui prend le métro le matin, il lit Libération, il rentre le soir, il lit Le Monde. Donc, je veux dire, l'univers, et il écoute plutôt France Inter, son univers médiatique, il a été meublé par ça, comme si ça ne fusait pas. Il y en a un qui va à l'école du journalisme, l'autre qui va à l'école nationale de la magistrature, et à nouveau, c'est la même décérébration. Il faut comprendre que ces gens-là sont victimes d'une décérébration unique dans l'histoire humaine, parce qu'elle était insidieuse. Lorsqu'on tente de décérébrer un type dans le goulag ou dans un camp maoïste ou même en lui faisant l'homo soviéticus qui dit la Pravda, il se bouche le nez pour pas être intoxiqué par les lettres de plomb, tandis que le type qui regarde avant, parce que maintenant ils ont le décodeur. Mais il y a encore 10 ans, le type qui écoutait France Inter, il n'avait pas le décodeur. Donc,
comme dans
du beurre. C'est une décérébration unique dans l'histoire humaine. Donc, ce système-là, si vous voulez, aujourd'hui, pour aller vite, aujourd'hui, par rapport à notre dernier entretien, c'est encore pire. L'idéologie, même la plus sourde, la plus sournoise, pas forcément par des gens encartés, s'est emparée assez largement, parce que je ne veux pas caricaturer ma propre pensée, il y a des juges formidables, il y a des juges qui bossent comme vous n'imaginez pas, il y a des juges intègres, mais je parle notamment dans des chambres stratégiques, la condamnation de Zemmour il n'y a pas longtemps, pardon de vous le dire, c'est pas, honnêtement là c'est l'avocat, je vous supplie de me croire, c'est pas l'essayiste engagé, c'est l'avocat désincarné. Sur le plan strictement juridique, condamné pour racisme, quelqu'un qui n'a visé aucune des catégories protégées, l'ethnie, la religion, la nation, en s'en prenant à la catégorie non protégée des mineurs isolés, sans préciser d'où ils viennent, c'est une horreur juridique et judiciaire. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus pour protéger les justiciables, les citoyens, vous et moi, que je vous le dis, que par rapport à Éric Zemmour qui s'en sortira toujours. Mais on est dans... Et je peux vous dire que, et je terminerai là-dessus, il y a une recette très simple, très basique à reprendre. Je ne cesse de le dire. Il faut revenir au système de notation des magistrats que nous avons abandonné il y a une vingtaine d'années. Il y a 20 ans, quand un juge voulait être bien noté, et quand vous êtes bien noté, vous avancez, vous gravissez avec les émoluments qui vont avec. Il fallait éviter qu'il soit le juge d'instruction infirmé par le tribunal infirmé par la cour d'appel cassée par la cour de cassation. Pour cela, la meilleure recette, c'était d'appliquer la règle de droit. Quand vous appliquez sans état d'âme, le droit est le droit, bon. Donc, et croyez-moi, ça fonctionnait assez bien. Sauf peut-être, effectivement, lorsque l'affaire, parce que c'était, je ne suis pas né non plus dans un système idéal, quand l'affaire était signalée en très haut lieu, alors, et au nom du même avancement, vous pouviez arranger les choses. Maintenant, c'est autre chose, la justice est totalement atomisée. C'est-à-dire que personne n'a de compte de rendre à personne, y compris par le système de notation, donc le juge...
Ils avancent à l'ancienneté ?
Ils avancent à l'ancienneté, donc le juge, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est plus esclave de la règle de droit.
Et il la réinvente ?
Il est esclave de son idéologie. Il est esclave de son sens très subjectif de l'équité. Et voilà comment on pond par idéologie, par sottise, par facilité, par paresse, par le pouvoir de l'inconscient, des jugements qui n'ont strictement rien à voir avec la règle de droit et qui vous font vivre, cher Charles, dans un monde extrêmement dangereux parce que sans une justice fiable et prévisible, vous ne pouvez pas vivre normalement.
Ben oui, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait autrefois, je crois, en droit romain, c'est qu'il ne peut pas y avoir nulla crimen sine lege, c'est-à-dire s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de crime.
Absolument.
Et eux, ils vous en trouvent, donc ils vous trouvent des crimes alors qu'il n'y a pas de loi, quoi.
Ils vous trouvent un crime moral. On est dans un système moral livré aux caprices moraux ou idéologiques de la personne sur qui vous tombez.
C'est-à-dire que la vieille distinction d'Abélard, la différence entre le péché et le crime. Maintenant, si vous avez commis un péché aux yeux du juge qui vous juge, toc, vous y passez.
Vous avez tout compris, vous avez bien compris que nous vivions dans un système religieux.
On vit dans un système religieux. Donc ce qu'il faut, c'est retourner à la laïcité.
Écoutez, la laïcité,
il faut sortir l'Église du pouvoir.
Exact. En tous les cas, je veux faire sortir la justice de l'Église.
Ou l'église de la justice, l'église de la justice.
Ou l'église de la justice, si vous voulez.
Mais ça me paraîtrait une très bonne chose. Mais il faut la faire sortir aussi des médias, il faut la faire sortir. Et la meilleure façon de la faire sortir, et peut-être vous allez conclure là-dessus, c'est quand même de cesser de la payer. Parce que pour l'instant, toutes les subventions qui vont à la presse, toutes les subventions qui vont avoir, il faut cesser de les donner.
Il ne vous a pas échappé que je suis un ardent militant, sinon le premier, de la privatisation de l'audiovisuel de service public. Il est invraisemblable, si vous voulez.
Il y a encore un truc comme ça aujourd'hui.
Non, mais il est...
L'époque de l'Internet.
Moi, je suis un orphelin de l'ORTF. Mais il est incroyable qu'aujourd'hui, l'audiovisuel de service public, qui est le seul qui soit astreint à un cahier des charges devant respecter la neutralité et une obligation de réserve et d'objectivité, soit au contraire dans une subjectivité totale, dans une absence de pluralisme total, et fasse la leçon aux télévisions privées, alors que cet audiovisuel public vous oblige, vous et moi, à payer une redevance. Et cet audiovisuel public, je termine là-dessus en passant, est extrêmement sévère. Je l'entendais encore ce matin, hier, j'entendais la chaîne Arte se plaindre que en Hongrie, Orban avait, paraît-il, complètement l'audiovisuel public. Écoutez, je vais vous faire une confidence, je n'écoute pas tous les jours la télé magyare. Mais mon imagination,
c'est difficile, l'Hongrois. Hein.
Oui, c'est pas facile, mais mon imagination est impuissante, encore une fois, à concevoir que la télé hongroise puisse être plus à droite que l'audiovisuel français soit à gauche.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je n'appellerais même pas ça à gauche. Parce que la gauche de mon enfance, c'était une gauche patriote. Ils sont dans un truc de détestation de leur propre pays.
Oui, mais
c'est ça, être de gauche.
Je ne veux surtout pas insister sur votre âge, cher Charles. Il se trouve que la gauche a évolué, la gauche a changé. La gauche n'est plus celle que nous avons connue. Nous avons connu, effectivement... Alors, on pouvait ne pas du tout avoir la même vision de la privatisation, de l'économie, de la gauche, et même de sa chanson de gestes, mais nous avons connu une gauche protectrice, justement, véritable et contre le racisme, une gauche républicaine, une gauche démocratique.
Et qui aimait le peuple.
Mais attendez. C'est parce que la gauche a abandonné le peuple que le peuple français l'a abandonné.
Évidemment, mais j'en suis persuadé. Mais non, c'est pour ça que je veux dire, quand vous dites qu'ils sont à gauche, le peuple français peut être resté à gauche, mais la gauche, elle n'y est plus. Je ne sais pas où elle est, mais ça, c'est pas à gauche. J'accepte pas qu'on dise que c'est à gauche, parce que pour moi, la gauche, c'était pas ça. C'est pas ce qu'ils sont. Mais merci beaucoup. Mais c'était passionnant. Manuel de résistance au fascisme d'extrême gauche. Les fachos ont changé de côté. Gilles-William Golnagel, les nouvelles éditions de Passy. Alors, écoutez, je ne saurais trop vous conseiller. C'est un tout petit livre, et puis 10 euros, allez.
C'est pas grand chose. C'est pas grand chose.
Une petite course en taxi. À la place de prendre un taxi, vous allez à pied.
Voilà. Ça vous fera du bien.
Ça vous fera du bien, et vous pourrez vous acheter le livre. Merci beaucoup.